Top, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Et c'est un instant M spécial Swinging London ce matin.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Vous me spoilez?
Le spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
Il y a des vies comme ça qui ne se résument pas. Mon invité est un mythe vivant. Il a connu enfant le tout Hollywood. On dit même qu'il est le fils naturel d'Orson Welles et il en sourit. À 25 ans, il réalisait une émission culte de la BBC. Il y fit connaissance des Rolling Stones et des Beatles, dont il signa ensuite les clips. C'est donc l'histoire d'un homme venu à l'image par le rock and roll. Un homme qui aime Paris et qui y vit en partie comme son grand ami Mick Jagger. Jamais très loin l'un de l'autre. Depuis ses débuts en musique, mon invité a tourné mille et un films et séries. Puis il s'est mis à la peinture. Ses toiles sont en ce moment exposées à la galerie Pixie de Paris. Venez-y. Une occasion en or pour rencontrer Sir Michael Lindsay Hogg, faiseur d'images surdoué, qui est le témoin vivant de deux naissances conjuguées dans les années 60, celle de la pop culture et celle d'un média de masse, la télévision.
L'instant M. Sonia de Villers, sur France Inter.
Bonjour, Sir Michael Lindsay Hogg. Soyez le bienvenu sur France Inter.
Merci, bonjour à vous.
Alors la musique en images, on commence 1963-1966 à Londres.
The boys who invented it are making their first television appearance in Britain on Ready Steady Go. Here they are with their big hit number, I Get Around. The Beach Boys.
Ready, Steady, Go, c'est comme ça qu'on dit, Michael. Émission mythique de ITV, tournée à Londres dans un studio minuscule. Vous avez réalisé cette émission, vous avez vu passer les groupes pop les plus importants de l'époque. Est-ce que ça vous manque, cette période où l'on pouvait mourir ou se battre pour de la musique?
I don't miss it,
but non, ça ne me manque pas.
Very glad to have experienced it.
Mais je suis ravie d'avoir vécu ça. C'était une époque extraordinaire, notamment en Angleterre.
Because the rock and rollers were basically
parce que le rock and roll, c'était en fait les enfants. Les rock and rollers, c'était les enfants de la Deuxième Guerre mondiale. Leurs parents étaient tombés à la guerre. Après, ils avaient vécu le rationnement, l'habillement qui laissait désirer, toutes les coupes militaires. Et tout à coup, voilà ces gamins de 20 ans qui sont arrivés et compris le pouvoir, ou plutôt le monde, à partir d'une petite île. L'Angleterre. C'est impossible de recréer ce qui s'est passé à ce moment-là parce que c'était la résultante de très nombreuses forces à la fois. Il y a eu la pilule contraceptive, le changement de style, les gens qui ne voulaient plus être comme leurs parents, forcés à avoir été ce qu'ils avaient été par manque d'opportunités. Eux, ils voulaient pouvoir avoir toutes les possibilités. Donc, non, ça ne me manque pas, mais je suis très content de l'avoir vécu.
Alors, évidemment, dans cette émission Ready, Steady, Go, les Who, Van Morrison, Donovan, Marvin Gaye, les Stones. Là, on a entendu les Beach Boys américains. C'était la première fois qu'ils se produisaient pour une télévision anglaise. Quelle était la différence avec l'émission Top of the Pop de la BBC, qui était l'autre grande émission de pop musique à l'époque?
The difference was,
la différence
very, great between Top of the
était
Pops,
considérable
which was BBC and
entre Top of the Pops, qui était BBC, comme vous le disiez, et puis la mienne, qui était ITV. Alors, Top of the Pops, c'était vraiment quelque chose, si vous voulez, de très classique, avec plan rapproché, gros plan, plan moyen. Et puis, leur musique, si vous voulez, était vraiment jamais du live. Nous, ce qu'on faisait, c'était vraiment du live qu'on s'est mis à faire pour qu'ils puissent faire ce qu'ils avaient envie de faire, deux, trois titres, pourquoi pas. Alors que quand j'ai commencé, moi aussi, je me suis dit, je ne veux pas simplement, si vous voulez, observer le chaos du rock'n'roll. Ce que je voulais, c'était qu'en fait, la caméra prenne part à ce chaos.
We decided on Ready Steady Go.
On a décidé donc sur Ready Steady Go de faire en sorte que en fait le public soit aussi proche que possible. des groupes. Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'était des gens qui avaient en fait quasiment le même âge. Mm-hmm. Il ne faut pas oublier que lui, Mick Jagger, quand il avait 21 ans, son public en avait 16.
Hein,
et puis en plus, Kathy McGowan, qui est vraiment la fille la plus branchée de Londres à l'époque, qui donc tenait cette émission, elle était toujours très apprêtée, elle était très branchée mode. Et donc, on montrait en même temps les vêtements que portaient tous ces jeunes, et ça faisait partie d'eux-mêmes.
Alors, vous avez rencontré là-bas tous les géants de la musique britannique de cette génération. C'est le début de votre histoire avec les Beatles. Premier clip, 1966, Paperback Writer. Alors, il faut imaginer ce que c'est qu'à l'image. Ils sont les quatre Beatles dans un jardin. Il y a une très jolie verrière. Il fait beau. Le ciel est bleu. Il y a une statuaire antique, de la glycine. Ils sont très statiques dans leur manière de jouer. Qu'est-ce que ça a de révolutionnaire, Michael Lindsay Hogg? Qu'est-ce que vous inventez là?
Well. There were very few videos.
Ouais. Il y avait très peu de clips. Ouais.
In fact, the very first videos I ever saw
les tout premiers clips d'ailleurs que j'ai vu, c'était Scoopytone.
Scoopytone,
des Français. Par contre, les Beatles, qui étaient les plus puissants, suivis de près par les Rolling Stones, ils adoraient eux. Rolling Steady Go, les Beatles, et donc ils sont venus voir en me demandant si j'avais pas une idée justement de clips qu'on pourrait faire. Et on en a parlé, et moi je m'étais dit, j'avais envie de faire quelque chose qui soit une espèce de vidéo narrative, un récit qu'on inventait, où il y en avait un par exemple qui travaillait dans un journal, et il y en a un qui serait en train d'écrire un roman. Mais Brian Epstein, leur manager, a dit non, lui ce qu'il voulait vraiment c'est les boys en train de performer.
Alors 2 ans après, clip des Rolling Stones, une antithèse visuelle, tout est en contraste, tout est en clair-obscur, c'est Jumping Jack Flash. Ce qui est très impressionnant, Michael Lindsay Hogg, c'est que tout est en très gros plan, les ombres sont très contrastées, les visages sont blafards, Mick Jagger est maquillé comme un apache sur le sentier de la guerre, vous filmez énormément en contre-plongée, bref, c'est l'exacte antithèse de l'esthétique des Beatles 2 ans avant.
After Ready Steady Go came
Après,
off the air in 1966,
Ready Steady Go, the good bands who loved being on les bons groupes, the show, qui aimaient bien participer à l'émission, ne savaient pas trop où aller pour faire de la télévision ou pour se faire photographier quand ils étaient sur scène. Et donc à ce moment-là, Mick Jagger m'a téléphoné et il m'a dit « Mais est-ce que tu voudrais bien faire un clip pour notre premier single ?» Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que à ce moment-là, les clips c'était rare.
Ouais.
Il y en avait 2 des Beatles. Une Rolling Stones, et évidemment leur style à eux aux Stones était très très différent de celui des Beatles. Mick Jagger c'est quand même une bête de scène, c'est la bête du siècle, la bête de scène. Donc je voulais vraiment me concentrer sur sa personne à lui. Différemment de ce que j'avais pu faire avec les Beatles. Donc, on réfléchissait au maquillage, par exemple. Brian Jones a été le premier à se maquiller. Et puis après, j'ai dit aux autres, au reste du groupe, j'ai dit, maquillez-vous, vous aussi, on va voir ce que ça donne. Et ça les a complètement transformés. Ça en a fait des espèces d'apaches, effectivement, à l'air un peu inquiétant. Et c'est comme ça qu'on en est venu à faire ce clip pour ce titre. Heureusement, les Rolling Stones ont adoré, sinon, j'ai été grillé pour les 15 années à venir.
Vous sauriez dire quel était le budget d'un clip à la fin des années 60, au début des années 70? Combien ça coûtait de tourner un clip vidéo à l'époque?
Oh, Jesus, I don't know.
Je ne sais pas.
600 pounds or
c'est
something.
Ça. 600 livres. C'est ça, c'est ça.
Maybe 1,000.
Maybe 1,000 pour 2 chansons.
Où est-ce qu'ils étaient vus? Où est-ce qu'ils étaient montrés?
on les a beaucoup vus en Amérique, aux États-Unis. C'est clipper, c'était un gros marché. Ed Sullivan a par exemple montré la vidéo des Rolling Stones, c'est un énorme marché. Voilà, c'était présenté dans ce type d'émission. Et puis, quelques années plus tard, on a fait Hey Jude avec les Beatles. On montrait à une émission, on vendait 60 000 disques le lendemain.
C'est ça. On va rester avec les Rolling Stones. On commence par le très célèbre Rock'n'Roll Circus, les Stones et leurs invités hyper baroques, hyper prestigieux. C'est 1968 et c'est le Rock'n'Roll Circus.
You've heard of Oxford Circus, you've heard of Piccadilly Circus, and this is the Rolling Stones Rock'n'Roll Circus, and we've got sights and sounds and marbles to delight your eyes and ears, and you'll be able to see the very first one of those in a few moments.
Enregistré en deux jours, Michael Lindsay Hogg, là encore vous êtes à la réalisation. Vous avez conçu ce dispositif ou c'était la volonté de Mick Jagger et de Brian Jones?
After I done the videos for the Beatles,
après que j'ai fait les clips pour les Beatles, les choses se sont bien passées pour moi.
Mick Jagger called me up and said,
et donc il m'a téléphoné, Mick Jagger m'a dit, bah voilà, on pense à vous pour quelque chose pour la télévision, une espèce d'émission complète, une spéciale pour la télévision, et est-ce que j'étais d'accord de la réaliser? Est-ce que j'étais d'accord de la réaliser, mais même de proposer un concept pour cette émission? J'ai dit oui, bien sûr. Donc on était là, dans leur bureau, on prévoit une journée de tournage en décembre, on est début novembre, et là, j'ai encore pas de concept, pas d'idée. Et je suis en train d'essayer de faire des petits gribouillis pendant qu'on réfléchit. Puis là, je me mets à faire des gribouillis en forme de cercle, et de cercle, et de cercle. Et là, tout à coup, il y a ce titre qui me vient à l'esprit avant même de décliner un concept.
And I said, I'm going to say seven words to you. Tell me what you think.
Je te dis sept mots. Dis-moi ce que t'en penses.
The Rolling Stones Rock and Roll Circus.
The Rolling Stones Rock and Roll Circus.
And he, because he's so smart, immediately got it.
Il est malin, évidemment, très malin. Donc il a tout compris. Et on a commencé à. On est parti sur cette idée du cirque. Donc pas un gros cirque qui coûte très cher, mais plutôt l'espèce de petit cirque itinérant, pourquoi pas, en Autriche ou en Angleterre. On s'est demandé qui sera Monsieur Loyal. On a pensé à Brigitte Bardot.
Oui, à Brigitte Bardot. C'est la rumeur. On dit que Brigitte Bardot devait présenter le Rock'n'Roll Circus.
Yes, and she wanted to do it.
Oui, elle était prête à le faire. Elle avait envie de le faire. Malheureusement, elle était sous contrat déjà avec une télévision américaine pour faire quelque chose pour cette télé-là. Ils n'ont pas dégagé de contrat de cet engagement.
Donc,
ça aurait été fabuleux quand même, non?
A day and a half.
On a tourné en un jour et demi, hein, effectivement, à peu près tout.
And the Rolling Stones didn't get on till about two in the morning.
Les Stones sont arrivés sur scène à 2h du matin, jusqu'à 5h du matin. Ils ont joué, ils étaient épuisés puisque ils avaient passé toute la journée. Ils n'étaient pas certains d'avoir fait exactement ce qu'ils voulaient faire en termes de qualité. Donc pour un certain nombre de raisons, il a fallu attendre 1986 pour que cette émission soit vraiment vue. Présentée, vous rendez compte, 28 ans plus tard.
Oui, elle n'a pas été diffusée à la BBC au moment où vous l'avez tournée. À ce moment-là, Brian Jones est en rupture avec le groupe. En réalité, c'est la dernière fois qu'il jouera avec les Stones. De la même manière, lorsque vous avez filmé les Beatles en répétition pour Let It Be, ça se passe mal aussi entre le groupe. Vous avez assisté à des disputes, vous avez assisté à des tensions. Est-ce que vous regrettez, Michael Lindsay Hogg, de ne pas avoir filmé aussi ces moments de fracture, ces moments de dérive, ces moments de tristesse, ces moments de fissure? Est-ce que vous regrettez de ne pas les avoir montés, de ne pas en avoir fait quelque chose pour la télévision, pour le cinéma?
Brian Jones was frail.
Brian Jones, c'était quelqu'un de fragile, effectivement, aussi bien, si vous voulez, affectivement que physiquement. Ça l'avait fatigué, le circus. Donc, il avait tout donné. Il avait l'air d'un vieillard complètement épuisé. Et il est mort, effectivement, 6 mois plus tard, hein, après avoir quitté le groupe. Il était au bout du rouleau.
Let It Be was concerned. It also was originally going to be a television special.
Dans un premier temps, on voulait faire aussi une spéciale, hein, comme le circus, pour la télévision.
We all fought so much, the four of them and me, about.
Mais on s'était beaucoup battu quand même sur ce qu'on allait faire pour cette spéciale. Est-ce que ce serait dans un amphithéâtre sur la côte tunisienne? Est-ce que ce serait dans un avion, dans une caverne? Et George Harrison n'avait plus vraiment envie de jouer en public. Il voulait juste enregistrer en studio le disque.
When the idea for the television special was
Donc, quand cette idée de cette émission spéciale pour la télévision a dû être, si vous voulez, laissée de côté, on avait encore deux caméras qui tournaient.
Et
j'ai pas forcément utilisé l'angle des différents créatifs autant que j'aurais pu faire, les confrontations, les coups de gueule à l'époque. Ça m'avait pas semblé extraordinaire, ça avait pas un intérêt particulier. C'est des gens qui se côtoyaient depuis l'adolescence, ça faisait 15 ans qu'ils travaillaient ensemble.
Et
c'est aussi comme ça que la collaboration créative se fait. Il y a les bons jours, il y a les moins bons. Et effectivement, il y a beaucoup d'images dans le film où on les voit aussi passer des très bons moments ensemble.
Ouais.
On collabore avec joie. Mais bon, lorsque le film est sorti aux États-Unis, entre-temps, on sait qu'ils s'étaient séparés, les Beatles. Et Let It Be a été conçu souvent par les gens comme le point de rupture, le moment de la rupture, alors qu'en fait, ça a été probablement l'un des événements les plus joyeux des Beatles, cette scène sur le toit où ils ont joué ensemble pour la dernière fois.
On va l'écouter parce que ça, c'est votre idée, Michael Lindsay Hogg, c'est votre idée. Pour le final, vous allez les faire jouer sur un toit anglais. C'est complètement fou. Et en plus, on voit les passants dans la rue lever la tête et se demander ce qui se passe au 6e étage.
1, 2, 3, 4.
Je le disais en introduction, Michael Lindsay Hogg, vous avez eu une immense carrière de réalisateur de télévision, vous avez tourné énormément de séries, vous avez tourné de téléfilms, vous avez tourné pour le cinéma. J'ai une seule question, qu'est-ce que la musique vous a appris en matière de mise en scène? Qu'est-ce que le fait d'être né à l'image avec le rock a changé dans votre manière de mettre en scène des images?
Rock and roll, shooting rock and roll, working
avoir tourné, avoir filmé du rock, les grands musiciens de cette époque, de la génération rock and roll. Qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris en fait que réaliser un film, souvent, c'est en fait créer son propre vocabulaire. J'ai aussi appris avec le rock que quand on fait quelque chose pour raconter quelque chose, une histoire, on a des règles qu'on peut tout à fait inventer. On n'a pas nécessairement à suivre les règles qui ont été appliquées par d'autres gens. Ça m'a appris tout ça. Et puis aussi, c'était la première fois que je faisais un travail en tant que réalisateur à ce moment-là.
Mille merci, Michael Lindsay Hogg. Mille merci d'être venu nous voir sur France Inter.
Mille merci à vous.
Votre exposition, Sir Michael Lindsay Hogg, votre exposition, elle se déroule en ce moment à la Galerie Pixie à Paris et c'est jusqu'au 21 décembre. Merci Hélène Joguet qui était donc votre voix ce matin. C'est la fin de l'Instant M. Bonjour Ali Rebey.
Bonjour Sonia De Villers.
Alors c'est quoi ce machin, ce Black Friday là, avec des réductions partout?
Vous n'entendez pas ce matraquage? Le matraquage du Black Friday par mail, par SMS, dans les affiches,
si,
etc.
Si, si, si.
Et on va ce matin avec l'émission Tout compte fait sur France 2 présentée par Julien Bugier, on va s'intéresser aux pièges du commerce en ligne pendant cette période de promotion monstrueuse, enfin en apparence monstrueuse. Hein. Vous pouvez tout de même appeler le standard ce matin, 01 45 24 7000. Pas d'auditeur à l'antenne, mais on pourra lire vos fiches, je lirai vos fiches à l'antenne. Voilà,
voilà 01 une émission 45 de service public, une émission utile en ce moment.